Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Qu'a bien pu vouloir dire Emmanuel Macron tout à l'heure au moment de rendre hommage au préfet Claude Erignac, assassiné à Ajaccio en Corse il y a exactement 20 ans. Le chef de l'État a eu ces mots. 20 ans plus tard, la République doit conserver cette ambition de ménager à la Corse un avenir qui soit à la hauteur de ses espérances, sans transiger sur les requêtes qui la feraient sortir du giron républicain. Alors l'avantage avec une telle phrase, c'est qu'elle peut convenir à presque tout le monde, ceux qui réclament davantage d'autonomie pour l'île, comme ceux qui y sont absolument hostiles. Emmanuel Macron doit rencontrer en début de soirée le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, et celui de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni. Sans doute aura-t-il l'occasion de préciser sa pensée. Pour ses interlocuteurs, en tout cas, les choses sont claires. Ils ont fait voter vendredi une résolution par l'Assemblée territoriale dans laquelle ils demandent notamment que la Corse fasse l'objet d'une mention spécifique dans la Constitution. Mention, est-il encore écrit, permettant de la doter d'un statut défini par référence à l'article 74, l'article 74 de la Constitution, c'est-à-dire celui qui détermine les compétences des collectivités d'outre-mer. Alors la Corse est-elle justement un territoire d'outre-mer comme les autres ? C'est autour de cette question que nous allons discuter ce soir en compagnie de trois invités. Jean-Luc Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du MRC, le Mouvement Républicain et Citoyen, ancien député du Val-de-Marne. Lorsque vous étiez député, vous étiez opposé à la création du statut de collectivité unique pour la Corse. Pour discuter avec vous, il est en duplex des studios de France Bleu à Bastia, Petr-Anton Tomasi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller à l'Assemblée de Corse, vous présidez le groupe Corsica Libera, et qui est le mouvement nationaliste dont est issu Jean-Guy Talamoni, le président donc de l'Assemblée de Corse. Vous faites partie de la majorité avec le groupe Fais-moi Corsica. Et puis en duplex des studios de France Bleu, cette fois c'est à Toulouse, Vanda Mastor, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, professeur de droit constitutionnel à l'université Toulouse 1 Capitole. Vous avez remis il y a quelques jours de cela, c'était mi-janvier, un rapport à la collectivité de Corse, rapport qui plaide pour doter la Corse d'un statut constitutionnel. Alors évidemment, on va avoir l'occasion de discuter de cette idée d'inscrire la Corse dans la constitution de la Ve République. Mais je voudrais d'abord avoir votre avis sur la phrase que j'évoquais en ouverture de cette émission. Je la redis, hein, Emmanuel Macron tout à l'heure. La République doit conserver cette ambition de ménager à la Corse un avenir à la hauteur de ses espérances, sans transiger avec les requêtes qui la feraient sortir du giron républicain. Comment est-ce que vous la comprenez, cette phrase, Petr-Anton Tomasi ?
Mais écoutez, je crois qu'il appartiendra demain au président Macron de la préciser. Comme vous le disiez précédemment, cette phrase peut ouvrir la voie à des interprétations tout à fait diverses et même contradictoires. Pour le moment, le président Macron s'est exprimé dans une phase qui était une phase mémorielle. Le seul élément que nous pouvons aujourd'hui analyser, c'est une tonalité. C'est vrai que la tonalité de ce matin n'était pas une tonalité apparemment ouverte, mais en tout cas, je crois qu'il faut attendre. Il faut attendre le discours de l'Albor ou demain à Bastia et sa rencontre avec les présidents de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif qui vont lui réitérer ce soir la demande qui est celle de l'Assemblée de Corse, qui dépasse d'ailleurs très largement la sphère nationaliste, même si les nationalistes aujourd'hui ont recueilli une majorité absolue des suffrages aux élections territoriales et qui consiste à demander une mention spécifique de la Corse dans la Constitution qui puisse lui permettre à l'Assemblée de Corse d'intervenir en matière législative.
Voilà, parce qu'il faut préciser que les élus de La République En Marche dans l'Assemblée de Corse ont aussi voté la résolution sur laquelle on va revenir dans un instant. Est-ce que vous interprétez de la même manière, Jean-Luc Laurent, cette phrase d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire il est peut-être urgent d'attendre un petit peu pour connaître plus précisément les intentions du chef de l'État ?
Moi, je vois avec confiance cette affirmation du président Macron. Évidemment, on peut s'interroger, mais je pense qu'il rappelle, en tant que président de la République, ce qu'est la République et qui doit s'adresser à tous les territoires, à toutes les collectivités et qui permet que la République soit une et indivisible. On va parler des spécificités corse ou de tel ou tel, mais en s'agissant de la Corse, des choses sont déjà prévues au travers de la loi NOTRe, qui permet à la collectivité d'agir. Je n'ai pas voté ce texte, je me suis insurgé, parce que je pense que derrière la revendication d'autonomie se cache l'indépendance. Et donc, ça serait le démantèlement de la France et ça ne serait pas un service rendu à l'ensemble des citoyens du point de vue de l'égalité et de la capacité à vivre ensemble.
Alors on verra effectivement demain, à travers le discours d'Emmanuel Macron, dans quelle direction il va, si tant est qu'il choisisse une direction. Est-ce qu'en tout cas, on peut dire, Vanda Mastor, qu'on est déjà aujourd'hui dans un contexte politique particulier, c'est-à-dire avec un rapport de force qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il pouvait être il y a quelques mois, il y a quelques années seulement, c'est-à-dire avec à la fois le résultat des élections territoriales au mois de décembre, qui ont donné une majorité large aux autonomistes et aux nationalistes, et en plus à la tête d'une entité politique qu'est cette Assemblée de Corse, qui a des pouvoirs qui sont plus importants qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent.
Oui, absolument. Le moment est en effet venu, moment juridique, j'y reviendrai sans doute, moment politique aussi, pour les raisons que vous évoquez, en raison donc d'une part des résultats des dernières élections locales, mais aussi d'autre part des résultats des élections nationales, puisque le président Macron avait quand même un discours, c'est lui-même qui a parlé de pacte girondin, pas vraiment, si vous voulez, rigide, comme on a pu l'entendre auparavant. Je me permets juste, moi également, de répondre à la première question que vous avez posée, parce que précisément, pour lever tout de suite les malentendus, puisque je suis invitée en tant que l'auteur du rapport, je précise bien dès mon introduction qu'il s'agit précisément de proposer la sortie de la Corse de la République, laquelle n'est plus une et indivisible, mais de lui offrir un statut permettant d'encadrer son insertion, en tenant compte de ses spécificités. Donc
les propositions que vous faites entrent dans le cadre de ce que dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire ça permet d'inscrire la Corse dans le giron républicain pour vous.
Hein. Absolument. Vous avez eu raison de commencer par dire que la phrase était ouverte, mais en tout cas, elle peut aussi être interprétée dans ce sens-là, oui.
Alors vous évoquez ce pacte girondin qui avait été évoqué par Emmanuel Macron, c'était cet été, début juillet. Pacte girondin, ça veut dire, a priori, notamment donner davantage de latitude aux collectivités, notamment aux collectivités d'outre-mer. Est-ce que c'est une demande qui vous paraît importante de la part de la population, Petr Anton Tomasi, quand on voit la participation qui a été celle de la manifestation de samedi à Ajaccio, qui consistait justement à demander au chef de l'État de négocier le statut de l'île. Alors évidemment, comme à chaque fois qu'il y a des manifestations, les chiffres de la police, les chiffres des organisateurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Côté police, on est à 6 000, je crois. Côté organisateur, 25 000. Est-ce que ça vous paraît témoigner d'une demande forte des Corse?
Je crois que c'est une manifestation importante qui s'est tenue à Ajaccio, au-delà des batailles de chiffres, et les Corses, les observateurs sérieux l'ont relevé. Je crois qu'elle vient aussi confirmer ce qui a été dit dans les urnes par les Corses. Les Corses ont voté en connaissance de cause. La majorité territoriale, Péagour-Séga, qui est donc composée d'indépendantistes, et je note, pour répondre à M. Laurent, qu'il n'y a pas de revendication cachée. Il y a des indépendantistes dans cette majorité, mais il y a aussi un accord politique sur une décennie avec le courant autonomiste pour revendiquer un statut qui est celui dont le contenu a été précisé par la résolution solennelle de l'Assemblée de Corse. Oui, je crois qu'il y a une demande forte des Corses, et je crois qu'il serait absurde d'opposer à la fois des questions qui seraient des questions politiques et symbolique, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron, sur une radio, sur la radio de service public en Corse, et des questions qui concernent le quotidien des Corses. Nous disons que le statut d'autonomie, il doit permettre, bien sûr, d'assurer la pérennité du peuple corse sur sa terre, mais qu'il doit aussi permettre de régler des questions qui sont des questions extrêmement concrètes. Et je crois que nous aurons l'occasion d'en donner quelques exemples au cours de cette émission.
Mais Petr Anton Tomasi, ici, ces revendications aujourd'hui, elles peuvent être portées de manière forte sur le plan politique. C'est parce qu'il y a cette collectivité territoriale unique qui existe désormais. Or, cette collectivité, les Corses l'avaient refusée en 2003. Alors, vous allez me dire, ça remonte à il y a une quinzaine d'années déjà, mais il y avait eu un référendum local avec un refus de créer cette collectivité unique au profit des deux départements, même s'il y avait eu une petite majorité, mais les Corses n'avaient pas forcément témoigné justement cet appétit pour cette forme-là d'autonomie en tout cas.
Je crois qu'il y a deux aspects dans votre question. La question d'abord du référendum de 2003, c'est juste, les Corses ont rejeté le projet de statut qui leur était proposé à l'époque, avec des coalitions assez hétérogènes à la fois en faveur du statut et contre le statut. Depuis lors, il y a eu des élections, il y a eu des évolutions politiques, il y a eu des votes à l'Assemblée de Corse. On est aussi dans un système qui est représentatif à des majorités extrêmement larges, sous des mandatures qui n'étaient pas des mandatures nationalistes. Et donc, ceci a débouché sur la création de cette collectivité unique. Mais les demandes auxquelles nous faisons référence, le statut d'autonomie, le pouvoir législatif, des mesures en matière linguistique et notamment la co-officialité, des mesures pour protéger le foncier, des mesures en matière fiscale, parce que nous disons que la fiscalité générale n'est pas adaptée à un territoire qui est insulaire, qui est faiblement peuplé et qui est un territoire montagneux. Toutes ces demandes sont bien antérieures à l'entrée en vigueur de la collectivité unique. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons une chance unique de pouvoir avancer vers une solution négociée, dans la mesure où l'agenda politique corse coïncide avec l'agenda politique à Paris, avec cette révision de la Constitution. Or, jusqu'à présent, et j'en aurais terminé sur cet aspect, la doctrine à Paris, la doctrine gouvernementale, datait des années 70, où à l'époque, Liberbourg, représentant le gouvernement, avait affirmé que même 200 000 Corses autonomistes ne pourraient faire modifier la Constitution. Aujourd'hui, les Corses se sont prononcés de façon massive pour un projet qui est aussi un projet d'autonomie pour les années à venir. Et je crois que la démocratie commande de prendre en compte ce fait politique majeur.
Jean-Luc Laurent, c'est vrai que ça paraît quand même tout à fait légitime de tenir compte de la situation politique qui est celle de la Corse aujourd'hui, avec cette majorité qui est une majorité annette, qui s'est prononcée en faveur des autonomistes et des indépendantistes, et que donc ça rebat les cartes du rapport de force politique et que l'État est bien obligé d'en tenir compte.
Pas du tout. Pour une raison très simple, la démocratie s'est exprimée pour élire des représentants dans le cadre d'une collectivité unique de Corse.
Avec un projet quand même assez clair.
Avec un projet qui est clair, mais dans le cadre d'élections territoriales. Ces élections interviennent dans le cadre de la mise en œuvre depuis la loi NOTRe, c'est-à-dire il y a moins de 3 ans, un peu plus de 2 ans, de la création d'une collectivité unique, c'est-à-dire qui rassemble les compétences qui étaient dévolues auparavant à la région et aux 2 départements de Corse. Les pouvoirs sont renforcés et dans ces pouvoirs, il y a la possibilité d'ailleurs, dans le cadre de la loi votée à l'Assemblée nationale, et si l'Assemblée de Corse y est autorisée par la loi, de procéder à des dérogations et des adaptations législatives. Mais ce qui a été fait par une loi pour défaire les résultats d'un référendum, ce n'est pas de la démocratie. Moi, je m'insurge contre cette situation qui m'a d'ailleurs conduit à voter contre cette loi. Parce que cette loi sur le statut unique de la Corse, j'ai voté contre dans la mesure où je suis attaché à l'unité de la République.
Vous disiez à l'époque, la collectivité unique est le meilleur carburant pour alimenter les revendications autonomistes.
Le résultat est là. Les élections territoriales qui sont intervenues ont donné un envol aux autonomistes et aux nationalistes, indépendantistes. Mais je rappelle, il y a eu un référendum en 2003, les Corses y ont participé à plus de 60% de participation, et à mon sens, quand on revient sur une décision prise directement par les citoyens, il aurait été préférable de passer par un nouveau référendum associant l'ensemble des citoyens corses.
Vandam Astor, par rapport justement à cette idée du pouvoir dont dispose aujourd'hui cette collectivité territoriale corse, si je vous ai bien lu dans le rapport donc, que vous avez remis à l'exécutif corse, vous parlez d'une mise en cohérence justement entre ce qu'ont été ces dernières lois, ces dernières grandes lois de décentralisation, hein, c'est ça la loi NOTRe, et le fait qu'il faille justement mettre en cohérence sur le plan institutionnel et constitutionnel la place de la Corse dans la République. C'est peut-être pas très clair, mais vous allez être tout à fait limpide dans votre réponse.
C'est censé être mon métier, oui. Mais si vous voulez, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure et la distinction entre le moment juridique et le moment politique. Pour ce qui est vraiment des arguments juridiques hein, sur lesquels je peux uniquement me prononcer, il faut tout d'abord expliquer aux auditeurs que l'indivisibilité, même si J'entends bien l'idéologie de Monsieur Laurent, bien évidemment, mais d'un point de vue juridique, l'indivisibilité ne signifie pas forcément uniformité. Bon, ça, c'est peut-être quelque chose d'important à avoir à l'esprit.
Il parlait pas seulement d'indivisibilité, il parlait également d'unité. Mais est-ce que cette unité, elle existe encore dans la Constitution, justement?
Non, elle n'existe plus depuis 1946. Alors, évidemment, on peut me dire que ça existait avant, mais bon, les constitutions du XXe siècle ont décidé d'abandonner la référence à l'unité et pas seulement pour une raison purement, on va dire, décorative. En tout cas, pour revenir à votre question, le moment juridique, si vous voulez, la force du droit, c'est de réfléchir aussi à la cohérence. La cohérence entre textes de même valeur, la cohérence entre textes d'une valeur et des textes d'une valeur supérieure. Et le fait est que la spécificité de l'accord, ce n'est pas seulement les politiques qui en parlent, ce sont les parlements législatifs, si vous voulez, les parlements successifs qui l'ont toujours affirmé. Depuis les lois de Fer, puis les lois dites Jox, le processus de Matignon, la loi NOTRe, cette spécificité a toujours été rappelée de manière constante, pardonnez-moi, sans aucune rupture par le législateur. Donc au bout d'un moment, inscrire l'accord dans la Constitution sans encore entrer dans les détails sur où l'inscrire et le fameux débat assez technique entre les articles 72, 73 et 74, la première idée c'est il faut que l'accord pénètre dans la Constitution parce que tout simplement ce serait poursuivre une logique qui n'a jamais connu de rupture.
Est-ce que ce serait une mise en cohérence, disons, juridique, ou bien est-ce que ce serait avant tout le moyen de doter la Corse de pouvoirs dont elle ne dispose pas encore?
Alors, dans l'ordre du moins important au plus important, le moins important, mais qui, à mon avis, n'est pas mineur pour tout le monde, quand même, c'est symbolique. L'île de Clipperton jouit de la gravure dans le marbre constitutionnel. Je ne vois pas pourquoi la Corse ne jouirait pas au minimum du même symbole, premièrement. Deuxièmement, c'est mettre en cohérence, effectivement, avec l'évolution législative, qui, encore une fois, n'a jamais connu de rupture depuis les lois dites de fer et même avant. Et puis, troisièmement, c'est aussi une mise en cohérence pour donner à cette collectivité spécifique des pouvoirs spécifiques. Parce que c'est ainsi que le droit fonctionne, à territoire spécifique, pouvoirs spécifiques. Et au jour où nous parlons, la Corse n'en a pas en réalité. Elle a une architecture institutionnelle très particulière. Et aucune autre collectivité de métropole ne jouit d'une telle architecture, avec une assemblée délibérante élue au suffrage universel direct, un pouvoir exécutif, etc. Et elle n'a pas de pouvoir en réalité. Quand on parle de tous les pouvoirs qu'ont donné toutes les lois, ce n'est pas vrai. Les lois qui ont essayé de donner à la Corse des pouvoirs, quand je dis à la Corse, hein, j'entends la vision bien sûr institutionnelle, à l'Assemblée des pouvoirs normatifs, ont été censurées par le Conseil constitutionnel. En 2002, il s'était agi de donner à l'Assemblée le pouvoir, si vous voulez, d'adapter des règlements nationaux par rapport aux spécificités locales, et ça a été censuré. Donc la Corse, l'Assemblée de Corse au jour d'aujourd'hui, n'a que le pouvoir de faire des propositions au Premier ministre, lequel peut ne pas y répondre, et les faits ont prouvé qu'il n'y répondait souvent pas. Donc si vous voulez, le droit doit être là pour, à un moment donné, dire bon, il y a une cohérence, il y a une logique à suivre, et le moment est venu vraiment de tirer les conséquences au niveau constitutionnel de spécificités qui ont toujours été reconnues au niveau législatif.
Petra Antone Tomasi, il y a donc une résolution solennelle qui a été adoptée vendredi à l'Assemblée de Corse, qui avait été présentée et par le président du Conseil exécutif Simeoni et par celui de l'Assemblée Talamoni, avec notamment cette idée que la Corse fasse l'objet d'une mention spécifique dans la Constitution. Est-ce que pour vous, justement, cette mention spécifique, c'est la condition pour que la Corse soit dotée de davantage de pouvoirs, notamment davantage de pouvoirs législatifs et pas seulement réglementaires?
Ça l'est au plan juridique. Vanda Mastor vient d'en dire deux mots. Elle a rappelé le caractère inopérant du statut actuel en matière législative et je crois que ça correspond aussi au temps politique. Avant de revenir au fond sur ce sujet, je souhaiterais rapidement réagir aux propos de M. Laurent. Je crois qu'il y a un caractère assez cocasse à estimer que le référendum de 2003, dont le nom l'a emporté d'une courte tête, contraindrait le statut de l'île pour l'éternité et faire peu de cas d'élections territoriales et de votes répétés à de très fortes majorités. Nous croyons qu'il y a là une évolution qui a été validée par les Corses et je précise que les nationalistes avaient demandé à l'époque qu'il y ait un référendum sur la collectivité unique, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous ne sommes pas maîtres du temps politique, du temps législatif et du temps constitutionnel. C'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois qu'il y a un certain nombre aussi d'inexactitudes, pour le moins dans les propos de M. Laurent, quant au pouvoir de cette collectivité unique, la loi NOTRe n'attribue pas de pouvoir nouveau en fusionnant l'ancienne collectivité territoriale et les conseils départementaux, puisque la collectivité de Corse récupère l'ensemble de ses compétences, premièrement. Deuxièmement, la collectivité de Corse et l'Assemblée de Corse n'ont pas le pouvoir d'intervenir en matière législative, comme il a pu le suggérer.
Non, c'est pas
et, c'est bien le contraire,
ce
y compris à être habilité. Elle a simplement la capacité, et Vanda Mastor l'a rappelé, à formuler des propositions. Or,
il y a quand même la possibilité d'adapter des lois et des règlements avec l'accord de l'État central. Alors l'État, évidemment, peut dire non, comme l'a dit Vanda Mastor.
Tout à fait.
Non, en matière législative, elle a la capacité de formuler des propositions d'adaptation aux législateurs.
Voilà.
Or, il est établi, notamment par un rapport de la Commission des compétences législatives et réglementaires, sous une mandature qui était une mandature d'ailleurs de gauche, sous la mandature de Paul Jacobi, que dans 90% des cas, l'État ne répond pas, et lorsqu'il répond dans 10% des cas, il répond de façon négative. Or, l'idée aujourd'hui est de permettre, à travers un dispositif spécifique, d'avoir une habilitation permanente à intervenir, y compris dans des matières qui relèvent du domaine de la loi. Mais je vais vous donner un exemple.
Et du coup, juste, pardonnez-moi, Petr Antoine Tomasi, est-ce que ça veut dire que pour avoir ces dispositifs spécifiques, ça passe par l'inscription, par la mention spécifique de la Corse dans la Constitution ?
Tout à fait, puisque nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut, au-delà des articles et de la technique constitutionnelle, il faut que l'Assemblée de Corse ait la capacité à intervenir en matière législative et que soit précisé, via le texte constitutionnel et certainement par la suite via une loi organique, quelles sont les matières dans lesquelles l'Assemblée de Corse peut intervenir et y compris déroger à des principes généraux.
Alors je vais revenir très, très vite vers vous, Petr Antoine Tomasi, hein, pour que vous nous donniez votre exemple, mais je voudrais faire quand même réagir Jean-Luc Laurent sur cette idée déjà, alors d'inscrire la Corse, de la mentionner spécifiquement dans la Constitution. Pourquoi y êtes-vous hostile, puisque manifestement c'est le cas, alors qu'un certain nombre d'autres collectivités sont bien mentionnées dans la Constitution de la Ve République, je ne vais pas toutes les citer, mais la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, enfin tous les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie y est, et finalement le seul territoire avec une organisation spécifique qui n'est pas mentionnée de manière directe, c'est la Corse.
La reconnaissance de spécificité pour les territoires d'outre-mer remonte à une modification constitutionnelle de 2003. La Corse est considérée comme une collectivité métropolitaine au titre de l'article 72 de la Constitution. Si elle n'est pas reconnue en tant que telle et nommément dans la Constitution, il n'en demeure pas moins qu'elle bénéficie d'un statut particulier, d'où les lois successives, qui découlent des lois successives qui ont été votées.
Si elle était mentionnée dans la Constitution, ça la ferait sortir de la métropole, c'est ça ? Ça ne serait plus territoire métropolitain pour vous ?
Pour moi, ce serait une rupture d'égalité entre l'ensemble des collectivités. La spécificité de la Corse est déjà reconnue en tant que collectivité. Elle jouit d'un statut particulier au titre de l'article 72, alinéa 1 de la Constitution. Faut-il aller plus loin ? Derrière ces discussions juridiques, en réalité, il y a une question politique conduit à s'interroger et à discuter de ce qu'on souhaite république. Moi, je suis partisan d'une république une et indivisible, telle qu'elle s'est construite et sédimentée au fil des années. Il est évident que les autonomistes et les indépendantistes veulent l'autodétermination comme aboutissement et se voir reconnaître, au-delà de la question d'une inscription dans la Constitution de la France, l'indépendance. Donc, moi, c'est fort simple. Je pense qu'il ne faut pas avancer masqué. Il faut dire clairement les choses. Il y a une conception républicaine de la France, à laquelle, moi, je considère que c'est ce qu'il nous faut dans la mondialisation libérale, face au libéralisme, parce que la démocratie réside dans les nations, et les nations reposent sur les citoyens à égalité de droits et devoirs. Tout ce qui est demandé par l'Assemblée de Corse aujourd'hui du point de vue des trois principales revendications de la co-officialité des langues, du statut de résident, conduit notamment à ce qui est une logique de séparatisme. C'est la porte ouverte au démantèlement de la France et à la sortie de la Corse, de la République et de la France. J'y suis opposé.
Logique que ne conteste pas notre invité Petr Anton Tamasi, puisque c'est un mouvement indépendantiste qui se revendique comme tel. Justement, réaction et de Petr Anton Tamasi, ensuite de Vanda Mastor.
Écoutez, oui, effectivement, je représente sur cette radio un mouvement qui est un mouvement indépendantiste, qui n'avance pas masqué, qui est clair dans ses revendications et qui, je le répète, a un accord politique avec un parti autonomiste, avec un courant autonomiste qui s'appelle Femagursi, et qui consiste à doter la Corse de la capacité à décider et à régler de façon adaptée les questions qui se posent à son territoire et à son peuple. Mais je rappelle à M. Laurent que la République française, celle de la Ve République, elle prévoit déjà, pour un certain nombre de territoires, la capacité à intervenir en matière législative. Alors, de deux choses l'une, soit ces territoires, parce qu'ils sont éloignés, peut-être exotiques, ne font pas partie de la France, soit le modèle républicain français a déjà beaucoup évolué et fait déjà la place à de nombreuses dérogations. C'est le premier point. Effectivement, nous avons une conception philosophique qui consiste à dire qu'il existe un peuple corse, mais l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée de Corse le reconnaissent, l'ont voté dans des délibérations depuis plusieurs années. Des présidents de la République française, je pense notamment à François Mitterrand, l'ont reconnu devant l'Assemblée de Corse et nous estimons que ce peuple a des droits.
Bon, le Conseil constitutionnel avait censuré cette idée d'un peuple corse.
C'est tout à fait exact, mais sauf que le Parlement français avait voté la loi Jox qui comprenait la notion de peuple corse et c'était également une reconnaissance politique qui était une reconnaissance importante par-delà les questions constitutionnelles. Donc nous, ce que nous disons tranquillement, c'est qu'aujourd'hui, il y a la place pour permettre de régler en Corse un certain nombre de problèmes et pour tourner également, puisque vous parlez de politique, la page d'un conflit qui a été un conflit long et je crois que l'heure est pour nous venue d'aller vers une solution qui soit une solution négociée. Voilà.
Et l'heure, voilà pour, la moi, et l'heure est pour moi voilà venue de redonner la parole à Vanda Mastor, si vous le voulez bien. Vanda Mastor.
Oui, alors bon, évidemment, il est tout à fait normal que Monsieur Laurent avance des arguments politiques puisque c'est un homme politique. Alors moi, en tant que femme scientifique, je vais avancer des arguments scientifiques et je n'avance pas non plus masqué du tout. Vous savez, les juristes ne sont pas très 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 originaux. Et en fait, ce que je ne comprends pas vraiment, c'est que la rupture d'égalité dont parle Monsieur Laurent. Déjà, premièrement, ce n'est pas une rupture d'égalité. C'est juste de prendre en compte les spécificités des territoires, premièrement. Deuxièmement, si rupture d'égalité, dans le sens où il entend, il y a, elle existe déjà au niveau législatif, puisque précisément la Corse n'est pas un territoire comme les autres, puisque la Constitution le dit. L'article 72 de la Constitution dit bien que les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier. Ces collectivités à statut particulier sont au nombre de deux aujourd'hui, la Corse et la métropole de Lyon. Je ne vois pas en quoi l'insertion du mot Corse dans cet article 72 viendrait, si vous voulez, faire exploser la vision républicaine qu'il a et que j'entends bien sûr tout à fait.
Monsieur Larcher lui-même avait dit qu'il n'était proposition
pas contre cette insertion du mot Corse dans l'article 72.
Vanda Mastor, de réécriture, oui. Ce serait celle-ci. Dans l'article 72, les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier, la collectivité de Corse et les collectivités d'outre-mer. Est-ce que ça vous permet, ça vous semble, comment dire, permettre de conserver la Corse, le territoire corse, dans un ensemble métropolitain? C'est ce qui fait partie aussi un petit peu du débat juridique qu'il peut y avoir aujourd'hui au sein de l'Assemblée de Corse, c'est-à-dire que quitte à inscrire la Corse dans la Constitution, c'est peut-être mieux dans cet article parce que ça conserve justement la Corse dans l'ensemble métropolitain que si on le met dans l'article 74, c'est un petit peu technique, hein, mais vous allez nous clarifier ça à nouveau, mais qui a trait plutôt au territoire, aux collectivités d'outre-mer, là ça le ferait peut-être passer dans une autre sphère.
Tout à fait. Alors tout d'abord, pour revenir à ce que disait Monsieur Laurent tout de même et rassurer les craintifs de l'explosion de la République, parce que c'est quelque chose qui est très importante pour nous constitutionnalistes, il faut quand même bien voir qu'il y a des autonomies fermées et des autonomies ouvertes aussi. Les craintifs, notamment du repli identitaire, font surtout allusion à des autonomies fermées. Il y a aussi des autonomies ouvertes qui peuvent se faire au sein d'une République en étant juste respectueuses des différences. Bon, ça c'est un premier point.
Est-ce que vous avez justement des exemples qui pourraient rassurer Jean-Luc Laurent à l'étranger, si ce n'est au salaire de la République française.
Il n'y a pratiquement que cela. C'est-à-dire que j'ai accordé une très large part dans mon rapport au droit comparé, puisque c'est ma spécialité. Et quand on prend que ce soit le Royaume-Uni, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, je prends évidemment comme exemple que les États dits régionaux, souvent dans le débat, viennent des États fédéraux. Il ne faut surtout pas les prendre, c'est un très... très très mauvais point de comparaison, que ce soit l'Italie, l'Espagne, le Portugal, disent clairement dans leur constitution, en général dans des articles bien placés, c'est-à-dire au niveau de leur ouverture, si vous voulez, l'État portugais est même est indivisible, le mot unitaire existe même toujours au Portugal, c'est exactement la même chose pour l'Espagne et pour l'Italie. Ce qui n'empêche pas ces trois pays de reconnaître dans le même temps, en leur sein, une certaine autonomie pour les régions, soit pour toutes les régions, comme c'est le cas en Espagne, et même là à des degrés divers, soit pour certaines régions. En Italie, par exemple, il y a 5 régions qui ont un statut vraiment autonome et 15 régions qui ont un statut ordinaire. Et au Portugal, qui est de mon point de vue le point de comparaison le plus pertinent, seules 2 régions sont autonomes, les archipels des Açores et des Madères, précisément parce que ce sont des îles. Et donc voilà, donc ça c'était juste pour assurer un peu les craintifs de l'explosion, encore une fois, du modèle républicain. Concernant votre seconde question, qui nous fait entrer dans des détails plus techniques, alors évidemment, on peut tout à fait proposer, c'est un peu d'ailleurs l'idée, si je l'ai bien compris, de notre président du Sénat, une insertion à l'article 72. Et là, on entre dans les détails à la fois techniques, mais à la fois aussi d'environnement. L'article 72, c'est bien rappelé que l'Assemblée de Corse n'aurait pas de pouvoir, évidemment, normatif, c'est-à-dire, en l'occurrence, législatif. Moi, je faisais une proposition de l'insérer dans un nouvel article. Dans l'environnement, on va dire l'article 74. Pas l'article 74 non plus, parce que je fais partie de ceux qui pensent que, pour faire un clin d'œil au titre de l'émission que vous avez choisi aujourd'hui, la Corse n'est pas l'outre-mer. Pour moi, bon, j'ai pas le temps de développer, mais c'est la raison pour laquelle je préférais lui offrir quelque part un article spécifique qui est l'article 74-2, alors non en alinéa, puisque comme vous le savez, on ne peut pas changer la numérotation des articles de la Constitution, pour bien montrer, si vous voulez, que la Corse est une collectivité métropolitaine, pas ultramarine, mais qui serait dotée de pouvoirs très spécifiques. Et de ce point de vue, notre Constitution française pourrait même offrir un modèle assez unique en son genre en Europe. C'est-à-dire, voyez, la Corse est une collectivité métropolitaine, même si l'éloignement, malgré tout, comme vous le savez, est un argument important dans ce débat, mais qui présente une spécificité comme nulle part ailleurs. Et le droit constitutionnel nous sert aussi à être audacieux. C'est ce qui fait un peu le charme de notre discipline.
Et ce nouvel article 74-2 que vous proposez dans votre rapport, Vanda Master, il dit ceci. Donc la collectivité de Corse, régie par le présent article, a un statut qui tient compte de ses spécificités au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique qui fixe les compétences de cette collectivité et les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables. Le transfert des compétences de l'État porte sur les matières fiscales, foncières et linguistique. Ça, j'imagine, Jean-Luc Laurent, que ce n'est pas tout à fait un article pour lequel vous voteriez si vous étiez encore député.
Oui, vous avez tout à fait raison de souligner cette position qui serait la mienne. Pourquoi ? Je veux poser à notre spécialiste, professeur de droit, Madame Vanda Master, pourquoi s'arrête-t-elle à la Corse ? Pourquoi ne pas aller au-delà ? Il y a d'autres particularismes. En posant cette question, j'ai évidemment pour ma part une réponse, c'est que demain, si d'aventure on vous suivait, madame, eh bien nous n'aurions plus d'État unitaire, mais un État fédéral.
Quand vous pensez d'autres particularismes, c'est quoi ? C'est l'Alsace, la Bretagne, ça peut être ça ? Enfin...
Exactement, vous entendez des mouvements régionalistes qui demandent davantage d'autonomie en Bretagne, en Alsace notamment, et qui se sont exprimés dans le cadre de la loi NOTRe lorsqu'elle a été débattue à l'Assemblée nationale, je m'en rappelle tout à fait. Donc je considère qu'on passerait d'un État unitaire à un État fédéral, et pour ma part, je n'accepte pas que la Corse, avec toute l'histoire qui est la sienne, puisse aborder la question du fédéralisme qui s'imposerait à la France au travers de cette réforme que vous proposez, alors que ce sujet concerne l'ensemble du peuple français. Par ailleurs, les exemples que vous prenez sont avec des organisations institutionnelles totalement différentes. Et pour ne prendre que l'Espagne, nous savons qu'il y a une autonomie beaucoup plus forte qui existe évidemment, mais je n'ai pas envie de connaître la situation de la Catalogne en France au travers de la Corse, d'autant que la collectivité unique donne les pouvoirs de régler les questions qui se posent. Qu'est-ce qui se pose comme question ? C'est le développement économique, c'est l'emploi, c'est l'insertion des jeunes qui doivent pouvoir trouver une place dans la société. Ce n'est pas donc pas l'exacerbation des particularismes qui conduisent à la différence des droits et au fait que la Corse ne bénéficierait plus dans ce cas de la solidarité nationale. Parce que là, le propre de la République, c'est de mettre en œuvre la solidarité nationale avec les collectivités locales. Donc, tout ce qui peut être fait en termes de progrès dispose des moyens pour agir aujourd'hui.
Alors, puisque vous interpellez Vanda Mastor, mais je voudrais aussi qu'on entende la réaction de Petr-Anton Tomasi sur cette idée que reconnaître cette spécificité à la Corse, ça pourrait avoir un effet d'entraînement et susciter d'autres demandes de reconnaissance des particularismes. Vanda Mastor.
Oui, alors à la première question, pourquoi me limiter à la Corse ? Alors, première sous-réponse très simple, le rapport est le résultat d'une mission. Le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamogne, m'a demandé de rédiger un rapport pour un statut constitutionnel de la Corse. Mais si les Bretons, les Basques et les Alsaciens, ou même des personnes du territoire de Belfort veulent que je travaille, j'adore tellement ma discipline que je peux m'y mettre, mais j'aurais un peu de mal à
l'appel est lancé, donc, sur les ondes de France Culture.
Non, mais je fais un clin d'œil à une remarque de M. Chevènement. Et par contre, je tiens vraiment à répondre sur la crainte du fédéralisme, parce que je suis assez étonnée de ce que j'entends. C'est un mot que je n'ai employé, mais à aucun moment dans les 46 pages de mon rapport. Précisément, les pays que j'ai cités comme exemple ne sont absolument pas des États fédéraux, ce sont des États régionaux. Et nous, les constitutionnalistes, on sait bien que cela n'a rien à voir. Au sein d'un État fédéral, il n'y a pas de région, il y a des États au pluriel qui tous sont dotés d'une constitution. Au sein d'un État régional, il y a une seule constitution. C'est la constitution de l'État qui est proclamée et qui est qualifiée de un et indivisible dans la plupart des pays européens, dont les régions n'ont que le pouvoir de faire des lois. Il faut quand même pas confondre État régional et État fédéral. Et c'est... Non, parce que tous ces pays-là...
Mais derrière votre projet, c'est le fédéralisme et c'est l'indépendance.
Et je voudrais entendre...
À aucun moment...
Mais si, vous le savez très bien.
Si vous voulez bien l'un et l'autre...
Si vous aviez lu mon rapport, vous sauriez que je n'emploie jamais le mot de fédéralisme, jamais le mot d'indépendance, jamais le mot de Catalogne, etc.
On est presque au terme... Si vous voulez bien l'un et l'autre, Vanda Mastor et Jean-Luc Laurent, on est presque au terme de l'émission et ça fait un petit moment que Petr-Anton Tomasi ne s'est pas exprimé et ce sera vous qui reviendrez à la conclusion, d'ailleurs, ce soir.
Écoutez, je crois qu'il y a quand même une méconnaissance des concepts du côté de M. Laurent, le fédéralisme, la course mécanique vers le séparatisme pour l'ensemble des régions de France. Je crois qu'il est...
Rassurez-vous, je connais bien les concepts et ce que veut dire l'indépendance.
C'est pas du tout ce qui est à l'ordre du jour. Nous sommes clairs sur cette question. Nous sommes pour la souveraineté de la Corse, vous le savez, nous n'avançons pas masqués, c'est dans le débat public ce dont il est question aujourd'hui. C'est
d'abord
politique. Nous avons été élus sur ce projet, M. Laurent. Il y a une question politique, celle de permettre au peuple corse, parce que nous estimons qu'il y a un peuple corse, de pouvoir décider librement de son avenir. Et puis il y a des questions techniques. Vous disiez tout à l'heure, la collectivité unique doit régler le problème de l'emploi. Mais je vous rappelle que l'emploi, c'est une compétence d'État aujourd'hui, le service public de l'emploi. Et d'ailleurs, je me souviens avoir déposé une motion dans le cadre de la présente mandature, demandant au titre du statut actuel un transfert de la compétence, à laquelle l'État, bien sûr, le gouvernement, n'a pas répondu. Donc le pouvoir législatif, c'est intervenir directement dans ce domaine. C'est intervenir sur des questions très concrètes, pour lesquelles, aujourd'hui, l'Assemblée de Corse n'est pas compétente. Et je crois pour cela que la République n'est pas forcément ébranlée dans ses fondements. Ce n'est pas Valmy, 1792, monsieur Laurent. C'est le droit d'un peuple à disposer de lui-même et à vivre dignement sur sa terre.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce passionnant débat. Petr Anton Tomasi, Vanda Master et Jean-Luc Laurent. J'en profite également pour remercier nos camarades de France Bleu à Toulouse et à Bastia. Remercier également, évidemment, toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Élise Leu.